Bonjour et bienvenue, je suis Sonia Oulad Ben Saïd sur IDFM Radio et à la technique Francky. Excellente journée sur IDFM Radio sur le 98FM, sur idfm98.fr pour le site internet et l'appli IDFM Radio. Vous écoutez l'émission Tous les droits, l'émission qui répond à toutes vos questions d'ordre juridique. Selon le célèbre adage, nul n'est censé ignorer la loi. Mais force est de constater que les lois changent régulièrement, se complexifient et que chaque cas est unique. Alors, pour vous aider à y voir plus clair, je recevrai chaque mois des avocats du barreau du Val d'Oise qui répondront à toutes vos questions, chacun dans leur domaine d'intervention respectif. Mes invités du jour sont tous avocats en droit des sociétés, droit des marques et de la propriété intellectuelle et je les remercie vivement d'être venus partager cette matinée avec nous. Bonjour, maître Aurore Ventura.
Bonjour, Sonia.
Votre cabinet, on se connaît bien avec Aurore, c'est pour ça qu'on va faire des maîtres Aurore Ventura, voilà, à longueur d'émission. Votre cabinet est situé à Pontoise.
C'est bien ça.
Et vous répondrez aujourd'hui aux questions des auditeurs sur leur délicieux rapport avec l'URSSAF et le régime social des indépendants. À vos côtés, maître Sébastien Thau. Bonjour.
Bonjour Sonia.
Merci d'avoir accepté une nouvelle fois de participer à l'émission Tous les droits. Vous êtes associé du cabinet et vos droits situés à Pontoise. Vous exercez en droit du travail et en droit des affaires et vous répondrez aujourd'hui aux questions des auditeurs en droit des sociétés et en droit des entreprises en difficulté. Enfin, maître Aurore Bonavia, bonjour.
Bonjour Sonia.
Une habituée de IDFM Radio. Votre cabinet est situé à Pontoise. Vous intervenez principalement en propriété intellectuelle et en droit du numérique. Et vous répondrez donc aux questions des auditeurs dans vos domaines d'expertise. Ce sont des matières très techniques. Et je suis très heureuse de vous recevoir sur ces sujets aujourd'hui. Bienvenue et merci d'être mes invités sur IDFM Radio pour ce quatrième numéro de Tous les droits. Je précise que c'est une émission que vous pouvez retrouver en podcast sur le site idfm98.fr ou sur notre appli IDFM Radio. Et tout de suite, je regarde maître Sébastien Thau. Est-ce que vous pourriez, maître Thau, nous rappeler un peu votre parcours, comment vous êtes devenu avocat, quand est-ce que vous avez prêté serment?
Bien sûr, je suis devenu avocat lors de ma prestation de serment le 1er mars 2004, donc il y a un peu plus de 20 ans déjà, ça passe très très vite. Et j'ai dans un premier temps collaboré, comme c'était l'obligation à l'époque, pendant 5 ans en l'occurrence, dans un cabinet qui est le cabinet d'un confrère qui exerce toujours, qui est Michel Ronzeau. J'ai beaucoup appris auprès de lui, et puis quand j'ai senti que j'en avais la capacité, je me suis installé. Après la création d'une première structure, je me suis ensuite associé au sein du cabinet Evodroit, qui est composé de 7 associés aujourd'hui. Et cette association, depuis 2017, fonctionne très très bien. On a développé le cabinet et on intervient dans beaucoup de domaines aujourd'hui, notamment le droit des affaires, le droit des sociétés, le droit des procédures collectives. J'interviens avec une équipe, donc je suis pas tout seul pour répondre aux questions des clients. Et voilà, donc c'est le développement de notre cabinet et ma situation aujourd'hui avec un cabinet qui est à la fois à Pontoise, historiquement installé à Pontoise, et à Paris pour un bureau secondaire.
Et votre cabinet est très impliqué d'ailleurs dans la vie économique locale. Vous participez aux rencontres de la CPME, aux manifestations de l'ordre des avocats à l'attention des entreprises, c'est bien ça?
Tout à fait. Nous essayons de nous rendre disponibles pour les entreprises qui n'osent pas toujours contacter un cabinet d'avocats assez simplement en l'appelant, mais qui souhaitent plutôt passer par des intermédiaires, type de salons, effervescence par exemple, ou la chambre de commerce par exemple, qui propose aussi aux avocats d'intervenir.
Très bien. Je vous remercie pour toutes ces précisions et pour la présentation de votre parcours. Maître Aurore Ventura, même question, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu votre parcours? Pourquoi vous êtes devenu avocat? Depuis quand?
Alors, donc moi, ça fait un peu moins longtemps que mon confrère, puisque j'ai prêté serment en 2012. Donc, l'obligation d'être collaborateur n'existait plus déjà à ce moment-là, mais j'ai quand même commencé une collaboration avec Éric Bourlion et Antoine Delplain. Donc j'avais j'avais à charge de gérer avec Éric Bourlion tout ce qui était le pénal. Donc dans mes débuts, je parcourais l'Île-de-France entre les juridictions et les commissariats. Donc c'était quelque chose qui me passionnait. Et puis s'est posé la question de s'installer. Mais étant un petit peu une peureuse, j'ai pris la décision de faire un mi-temps d'abord. Donc j'étais à Paris. En tant que collaboratrice, et j'étais à mon compte, je suis restée à Pontoise parce que c'est un barreau qui me tient à cœur particulièrement. Et c'est dans le cadre de cette collaboration à Paris que j'ai connu le droit de la sécurité sociale, puisque c'est une matière que je ne connaissais pas du tout. J'en avais vaguement entendu parler à la fac, mais ça donnait pas spécialement envie. Et donc j'ai commencé, puisque il faut savoir que le cabinet où j'étais avait pour client le anciennement RSI, qui n'existe plus, qui était donc le régime social des indépendants, donc pour les professions libérales, pour les artisans, les commerçants. Donc voilà, donc j'ai commencé un peu. Donc le RSI, en gros, c'était aller à l'époque, ça s'appelait le tribunal des affaires de sécurité sociale. C'était de plaider des dossiers de cotisants qui contestaient de voir telle ou telle somme, soit le principe même, soit le quantum. Enfin bon, il y a tout un panel. Et puis j'ai découvert aussi d'autres matières que je connaissais pas, d'autres comme notamment les maladies professionnelles, les accidents de travail, etc. Donc je m'y suis intéressée. Je continue aussi hein, parce que ça nécessite de la formation. Donc voilà, une fois que j'ai fait cette période, je me suis ensuite installée entièrement en novembre 2018, donc à Pontoise. J'ai gardé cette matière qui est le droit à la sécurité sociale. Je fais aussi des affaires familiales et j'ai gardé aussi un petit peu pénal qui reste quand même mes premières amours. Et donc depuis novembre 2018, je suis entièrement. Mais il y a une petite nouveauté, c'est que j'ai
une actualité.
J'ai repris le chemin de la collaboration en faisant un mi-temps. Et devinez chez qui je suis? Chez Antoine Delplat. Donc comme on dit, la boucle est bouclée. Donc je suis collaboratrice à mi-temps chez Antoine Delplat parce que voilà, on a des projets pour la suite. Donc c'était aussi un moyen de d'y arriver et d'intégrer cette nouvelle structure, puisqu'il s'est séparé d'Éric Bourlion, donc d'intégrer cette nouvelle structure et donc d'apporter ma pierre à l'édifice. Et puis ça me permet aussi de me familiariser avec tout ce qui est baux d'habitation, les expulsions et le droit pénal des affaires. Voilà.
Merci pour toutes ces précisions. Alors oui, c'est intéressant. Je vous avais parlé du RSI que j'ai bien connu parce que les avocats sont des travailleurs indépendants qui cotisent à ces organismes sociaux, l'URSSAF, l'ex-RSI, l'Union Sécurité Sociale des Indépendants. Donc aujourd'hui, vous allez répondre à des questions des auditeurs sur ces sujets, mais les avocats, à titre individuel, connaissent bien ces organismes délicieux. Voilà, donc c'est pour rappeler régulièrement aux auditeurs aussi que les avocats exercent soit en qualité de collaborateur, soit s'installe à leur compte. Et vous avez rappelé, aujourd'hui, vous êtes redevenue collaboratrice. Comme moi d'ailleurs, vous voyez, comme quoi c'est à un moment donné, on redevient collaborateur. C'est une deuxième naissance. Voilà ce que je dis. C'est une deuxième naissance professionnelle. Exactement. Merci pour ces précisions. Maître Aurore Bonavia, je crois que vous êtes la plus jeune en prestation de serment, n'est-ce pas? Quand avez-vous prêté serment, vous?
Tout à fait. J'ai prêté serment le 29 octobre 2015, donc il y a 9 ans.
Ah, ça pas quand même, ça,
oui,
ça,
quand
ça,
même
ça, 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 d'accord, très
même,
bien. Donc,
voilà.
Ok, vous êtes la plus jeune, mais ça fait un moment, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre parcours et maintenant votre cabinet et les activités dans lesquelles vous exercez?
Oui, bien sûr. Alors, donc moi, véritablement, le métier d'avocat, c'est une vocation. Depuis que je suis vraiment toute petite, depuis que j'ai l'âge de 6 ans, je voulais faire ce métier. Et puis donc, je me suis dirigée naturellement vers des études de droit. Et puis j'ai commencé à connaître certaines matières. Je me suis dirigée naturellement vers le droit des affaires en obtenant un master 1 en droit des affaires. Et le master 2, j'ai voulu choisir une matière qui changeait un petit peu de l'ordinaire et j'ai découvert la propriété intellectuelle et les nouvelles technologies, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et à côté de ça, j'ai eu un diplôme de juriste conseil en entreprise que j'ai obtenu à la faculté donc d'Aix-Marseille. J'ai ensuite donc passé le barreau comme tous les avocats, que j'ai obtenu donc en 2015, et j'ai commencé donc ma carrière en tant que collaboratrice à Paris, puisque donc c'est là principalement où se trouvent les avocats en propriété intellectuelle et droit du numérique. Et puis j'ai intégré le barreau du Val-d'Oise en 2018, d'abord dans un cabinet très généraliste qui n'avait rien à voir avec mon domaine, mais pour toujours apprendre et me nourrir des expériences des confrères plus expérimentés. Et puis j'ai décidé de fonder mon cabinet en juillet 2019, donc ça fait maintenant 5 ans, un peu plus de 5 ans, et je suis accompagnée par une assistante juridique depuis 3 ans. Voilà.
Donc vous exercez en droit de la propriété intellectuelle, droit des marques. Alors comment est-ce que les même moi en préparant l'émission, je dirais le droit des marques, le droit d'auteur. Est-ce que c'est dans la propriété intellectuelle? Comment ça se...
Alors donc effectivement moi j'interviens donc dans, on va dire, trois catégories principaux, mais essentiellement donc propriété intellectuelle, droit du numérique. Qu'est-ce qu'on englobe? Donc la propriété intellectuelle, c'est vraiment la matière générale, et à l'intérieur se trouve d'une part la propriété industrielle avec marques, dessins, modèle brevet notamment, et la partie propriété littéraire et artistique avec les droits d'auteur et les droits voisins. Donc tout ce qui va être musique, cinéma, photographe, hein, vraiment les droits d'auteur au sens artistique, l'écriture, voilà. Et dans le droit du numérique, moi j'englobe tout l'aspect donc protection des sites internet et des applications, donc toutes les fameuses mentions que personne ne lit mais qui sont obligatoires, tout l'aspect protection des données, RGPD, cybersécurité, et tout l'aspect aussi, on va dire, domaine digitaux, IA, qui en fait mélange un petit peu quand même de la propriété intellectuelle et le droit du numérique, donc voilà.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous propose de marquer une première pause musicale et nous retrouvons Aurore Bonavia qui a quelques actualités à annoncer. À tout de suite.
The way you get to me deep where my heart is. Got me so cold, but I wish I was heartless. Yeah, yeah. Ooh, I know I should let you leave. Ooh, cause every time that you're with me, cause every time that you're with me.
IDFM Radio, 98 FM.
Merci d'être resté avec nous sur IDFM Radio. Vous écoutez Tous les droits. Mes invités du jour sont avocats en droit des sociétés, droit des marques et droit des entreprises en difficulté. Et nous poursuivons nos interviews d'invités avec Aurore Bonavia qui, juste avant la pause musicale, nous parlait de son parcours. Et justement, vous avez indiqué que vous interveniez dans le droit du numérique, droit de la PI. Moi, je me rappelle à l'époque, les avocats en PI, donc c'est il y a 20 ans, hein. On la regardait avec des yeux ronds comme ça, en disant mais ce sont des extraterrestres, de quoi nous parle-t-il ? Et maintenant on vous envie presque, parce que manifestement vous êtes la matière qui se développe, et notamment avec toutes ces problématiques liées à l'IA, et donc la protection des données, la protection des marques, etc. Est-ce que d'ailleurs vous intervenez, vous, pour former à l'IA ?
Oui, alors tout à fait, effectivement, il y a quelques années, c'était encore nouveau, et on se demandait, bah, enfin, voilà, les nouvelles technologies, droit du numérique, on ne connaissait pas trop, même à mon époque, qui n'est pas pourtant si vieille, mais il y a une dizaine d'années, c'était encore un peu nouveau. Donc effectivement, j'accompagne les entreprises à se former à l'IA, et notamment à la réglementation, donc je peux intervenir pour animer des ateliers là-dessus. Et donc, en novembre d'ailleurs, avec Roissy et la communauté agglomérations, j'ai fait une petite intervention sur l'IA pour alerter les entreprises, puisqu'il y a eu une réglementation phare cet été européenne, donc qui s'appelle l'IA Act, et donc qui va concerner donc tous les entreprises, soit qui développent des intelligences artificielles, soit qui vont en utiliser. La réglementation n'est pas parfaite, il y a encore beaucoup de sujets qui ne sont pas éludés, mais en tout cas il faut se tenir informé et vraiment veiller. Il y a encore voilà des décisions récentes dans d'autres pays, donc il faut se tenir informé et suivre de cela de très près.
Donc on peut suivre votre actualité sur les réseaux sociaux pour savoir quand vous intervenez, notamment sur l'IA.
Oui, tout à fait, effectivement. Je suis présente sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn et Instagram essentiellement. Donc vous pouvez retrouver mes actualités et donc les dates des interventions liées à cela.
Merci beaucoup, Maître Aurore Bonavia. Merci à tous d'avoir précisé vos parcours. C'est très inspirant pour les auditeurs qui nous écoutent. Peut-être qu'il y a des futurs prétendants à l'avocature. Et donc, je suis ravie que les riches expériences de mes invités soient profitables à nos auditeurs. Mais nous avons également reçu, et c'est l'objet de cette émission, de nombreuses questions à votre attention à tous. Et je vous propose de commencer par les questions que nous avons reçu en droit des sociétés. Maître Sébastien Thau, nous avons reçu des questions des auditeurs que je vous propose maintenant d'évoquer ensemble. Une première question qui est la suivante. Quel recours j'ai pour attaquer un client qui me doit de l'argent sur une facture datant de septembre 2023, montant restant dû 12 000 euros hors taxe. Belle facture qui mérite effectivement d'être recouvrée.
Tout à fait. Il serait dommage de la laisser s'évanouir dans la nature. Alors, la première chose à faire, et c'est un réflexe assez commun à pas mal de situations, c'est, je pense, notifier une mise en demeure. C'est la manifestation du créancier à l'égard de son débiteur, celui qui doit l'argent, de sa volonté de recouvrer les sommes qui lui sont dues. Ça permet de démontrer qu'il y a une manifestation de cette volonté. Et puis, ça a des effets juridiques très simples. Hein, ça fait courir les intérêts légaux qui sont visés à l'article 1231-6 du Code civil. Donc, il y a un intérêt qui est de se manifester. Et puis, il y a un autre intérêt à cette mise en demeure, c'est qu'elle va pouvoir être utilisée dans le cadre d'éventuelles futures procédures qui seront engagées par le créancier. Alors, on peut penser en premier lieu, si notre auditeur a peur de voir son débiteur s'évanouir dans la nature, qu'il pourrait utiliser cette lettre dans le cadre d'un dossier qu'il va présenter à un juge par un avocat. Évidemment, le recours à un avocat est fortement conseillé, pour solliciter une autorisation de saisie conservatoire. On peut imaginer, alors la facture date de septembre 2023, ça fait plus d'un an qu'elle reste due, notre auditeur a quelques craintes, et il va donc s'intéresser à la situation de son débiteur. Sur Internet, il va pouvoir trouver quelques informations, mais elles ne seront pas toujours suffisantes, et il va peut-être avoir des craintes quant à la solvabilité de son débiteur. C'est là que se pose la question d'une éventuelle demande de saisie conservatoire. Donc, on immobilise les biens corporels, incorporels. Alors, dans l'incorporel, il peut y avoir des brevets, des marques, etc. On en parlait il y a quelques instants avec Aurore. Et donc, c'est un moyen de se prémunir, de se garantir d'une éventuelle déroute, banqueroute de son débiteur. On va saisir par anticipation un certain nombre de biens. Alors, il y a des conditions, évidemment, pour pouvoir déposer ce type de demande à un juge, c'est une procédure unilatérale, mais elles sont assez simples à comprendre. Il faut une créance qui soit certaine, hein, qui soit liquide, qui soit exigible, et puis il faut qu'on arrive à démontrer que son débiteur risque de ne pas régler, qu'il y a des craintes hein, quant au règlement final de notre facture. Donc si ces éléments sont susceptibles d'être réunis, notre auditeur pourra solliciter un avocat, donc il va déposer une requête pour se protéger. Une fois qu'il a fait cela, il n'a pas tout fait, puisque ça ne permet pas de recouvrer le montant de sa créance. Et il va falloir aller au fond, obtenir un titre. Alors aller au fond, en tout cas aller dans le cadre d'une procédure, obtenir un titre. Alors ça peut être une procédure au fond, comme je l'évoquais à l'instant, ou ça peut être une procédure de référé. Ce sont des procédures un peu plus rapides. Si c'est une facture dont on comprend qui a fait l'objet d'un règlement partiel, il reste encore du 12 000 euros. Donc c'est qu'on a tout de même un débiteur qui s'était engagé à payer. Il y aura peut-être pas de contestation sur la nature de la prestation qui a été offerte en contrepartie de cette somme. Et donc on peut imaginer une procédure de référé, qui sont des procédures d'urgence, des procédures de l'évidence également. S'il est dû évidemment 12 000 euros à un autre auditeur, il peut s'orienter toujours par un avocat, et là c'est une obligation, vers le juge des référés, qui va statuer très rapidement, hein, en matière commerciale, c'est l'avocat qui va sélectionner la date d'audience, donc selon un calendrier, on va avoir des dates d'audience à quinzaine, et qui va obtenir du juge, en l'espace de quelques semaines, tout au plus quelques mois, mais vraiment il faudrait que la procédure dure un peu, une décision qui sera exécutoire, même s'il y a un appel, hein, elle sera exécutoire, et pourrait permettre donc le recouvrement. S'il a en plus eu la bonne idée de prendre un avocat qui a sollicité et obtenu une saisie conservatoire, il va pouvoir convertir sa saisie conservatoire en une saisie définitive et récupérer ainsi, d'une certaine manière, le montant qui lui est dû, soit sous forme de somme d'argent, soit sous forme d'un bien qu'il va ensuite pouvoir revendre par l'intermédiaire d'un huissier. Voilà le schéma assez classique. On pourrait imaginer aussi, je ne le conseille pas nécessairement dans tous les cas de figure, mais que, toujours par l'intermédiaire d'un avocat, il puisse mettre en place une procédure d'ordonnance d'injonction de payer. C'est tout à fait possible. C'est une procédure qui n'est pas adaptée à tous les cas de figure. Il faudra bien regarder très précisément le dossier avec son avocat pour vérifier qu'elle est adaptée et que le recours à cette procédure, qui peut paraître plus simple au départ puisqu'on n'a pas d'assignation en justice, on a une procédure simplifiée par le dépôt d'une requête, et bien que cette procédure qui au départ est simple ne s'avère pas plus compliquée parce que le débiteur fait une opposition et on se retrouve devant le tribunal avec une procédure beaucoup plus longue. Donc encore une fois, ce sont des sujets assez techniques et il vaut mieux recourir au service de l'un de mes confrères valdoisiens, si ce n'est mon cabinet.
Vous m'ôtez les mots de la bouche parce que cette émission a vocation à expliquer les droits dans différentes matières, mais c'est vrai que force est de constater que comme cette question, hein, il y a énormément de points techniques que vous avez détaillés, donc le recours à un avocat est toujours douloureux pour les clients de venir nous voir au début, ou quand il y a on en est au stade des mises en demeure, mais vous l'avez à juste titre rappelé, des fois on veut se débrouiller tout seul avec des formulaires trouvés sur internet, et puis en définitive on finit chez l'avocat parce qu'on s'en sort plus. Donc
oui,
l'économie d'un passage chez l'avocat quand on a des questions de ce type qui apparaissent somme toute toujours simples sur le papier me semble indispensable. Alors vous pouvez donc rédiger les mises en demeure, on peut le faire soi-même, mais votre cabinet rédige régulièrement des mises en demeure, j'imagine, pour ses clients.
Tout à fait.
Et toujours, je le rappelle quand même, est-ce que vous intervenez aussi des fois sous couvert de la protection juridique, parce que les entreprises souscrivent des contrats d'assurance, souvent avec une garantie protection juridique, ce qui veut donc dire que lorsqu'ils activent cette protection juridique, cette garantie en tout cas, les frais d'avocat peuvent en partie être pris en charge par la protection juridique. C'est un mécanisme que vous rencontrez souvent ?
Oui, on incite nos clients à souscrire des contrats d'assurance de protection juridique en leur expliquant qu'ils auraient un intérêt à avoir financé de cette manière-là une partie ou la totalité des honoraires dus au titre des procédures, voire pris en charge les honoraires d'experts judiciaires lorsqu'il y a des dossiers d'expertise. Évidemment, ça concerne les entreprises également. Le seul inconvénient des assurances de protection juridique, je n'ai rien contre elles, c'est qu'elles veulent souvent prendre en charge le début du dossier, avec parfois des erreurs d'orientation dans la stratégie. L'assureur, via son gestionnaire, va rédiger une mise en demeure, on en parlait tout à l'heure, et ces mises en demeure parfois vont constituer le point de départ du dossier, mais un point de départ bancal, qui oriente parfois même assez mal le dossier. Donc il faut reprendre le dossier, refaire une mise en demeure, reprendre l'ensemble des éléments. Donc mon conseil est, prenez une garantie de protection juridique, mais demandez à ce que l'avocat soit saisi immédiatement et prenne en charge dès le début du dossier le contentieux.
Vous avez parfaitement raison de le rappeler. Donc cet auditeur auditeur a pléthore de solutions, voilà, et il s'en sortira s'il vient vous voir, ou en tout cas un avocat, voilà, qui intervient en droit des sociétés. Merci beaucoup pour la précision de votre réponse. Vous avez reçu une deuxième question d'un associé d'une SAS. Alors je comprends qu'il était associé à 50-50% avec un autre associé. Notre auditeur souhaite vendre ses parts à un tiers, mais manifestement rien ne stipule son droit de refus dans leur statut. Rédiger un exemple. Ah oui, alors, voilà. Un auditeur qui a pris un exemple de statut de SAS sur Internet et qui ne sait pas comment s'en sortir pour vendre ses parts à un tiers, vu que ce n'est pas prévu dans les statuts.
Très mauvaise idée d'avoir sollicité Internet et l'ensemble de ces modèles pour rédiger des statuts, à mon sens. Si je devais faire un parallèle, je pense que ce pourrait être le cas d'un patient qui risque de s'exposer à une maladie grave et procède par automédication avec de l'homéopathie. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Vaut mieux, évidemment, et on en revient toujours au même sujet, s'orienter vers un expert dans la rédaction des statuts, un avocat de préférence, et qui va précisément adapter les statuts à la situation des associés. Une société a nécessairement des particularités dans son activité, dans la personnalité des associés, dans le rapport qu'ils entretiennent entre eux. Donc il faut adapter les statuts à chaque situation, et ça, je le martèle, parce que les difficultés, nous ne les avons, enfin on les a souvent en tout cas lorsqu'on a des statuts internet, voilà, très clairement. Une fois ce préambule indiqué, si on s'intéresse plus précisément à la question de l'auditeur, je comprends que ces statuts ne prévoient pas beaucoup de choses, en tout cas ne prévoient pas de clauses d'agrément. Or, c'est précisément les clauses d'agrément qui pourraient freiner notre auditeur dans sa démarche qui consiste à vendre ses actions. Alors, les clauses d'agrément, encore une fois, ce n'est pas obligatoire, hein. Le principe dans les sociétés par action, c'est une certaine liberté, liberté de cession à des tiers, à des gens qui sont déjà associés, évidemment. Et cette liberté de cession ne peut être entravée que si on a prévu une clause d'agrément très précisément. On a l'impression qu'il n'y en a pas. Donc, par principe, notre auditeur doit pouvoir les céder librement à un tiers. C'est le principe des sociétés par action. On a la capacité de développer le capital de l'entreprise par des cessions rapides. C'est comme ça que fonctionnent les sociétés anonymes également. Donc, pas d'entrave de principe. Et c'est pas parce que on est dans une situation peut-être où monsieur et madame sont associés, où l'époux ou l'épouse met un blocage, que cela suffira. Non, il y a une liberté. Alors, comment ensuite on y procède très concrètement? Je conseillerais de rédiger un acte de cession. Ce n'est pas une obligation, il faut être très précis, ce n'est pas une obligation, mais je conseillerais vivement de rédiger un acte de cession qui prévoira des garanties, qui prévoira très précisément le prix de cession, les conditions de la cession, et permettra de verrouiller l'ensemble des sujets juridiques. Il faut encore une fois s'orienter vers un professionnel. Les parties ne veulent pas signer d'acte de cession, c'est tout à fait possible. Il faudra à tout le moins signer un bordereau de mouvement, un ordre de mouvement. Il n'y a pas de réglementation très précise sur le sujet, mais on doit pouvoir identifier les parties. On doit pouvoir identifier évidemment le nombre d'actions cédées. On doit pouvoir identifier le prix. Et on va pouvoir inscrire ensuite au compte de celui qui achète, qui est le cessionnaire des titres, et va pouvoir inscrire sur son compte les actions qu'il a acquises. C'est assez simple en réalité. Alors évidemment, il y a des droits d'enregistrement à régler, mais c'est assez simple à réaliser. Donc notre auditeur doit être assuré s'il souhaite vendre, malgré l'opposition de son associé, quand bien même ils sont à 50-50, il doit pouvoir vendre. Dernier élément de précision, il concerne la rédaction des statuts toujours. Au-delà des clauses d'agrément, il peut y avoir des clauses qui prévoient une priorité de rachat tout de même à un associé déjà présent dans la structure. Ça, c'est tout à fait envisageable. Ça peut être dans les statuts ou dans un pacte d'actionnaire signé parallèlement, qui lui demeure confidentiel, et qui peuvent non pas entraver sa liberté de céder, mais entraver sa liberté de céder à qui il veut. Hein. Donc il devra simplement céder à une personne déterminée dans des conditions qui sont prévues par les statuts. Donc voilà qui pourrait, devrait rassurer l'auditeur.
Merci pour cette réponse rassurante. On ne se lasse pas de vous écouter, mais nous devons laisser place à la musique maintenant. On se retrouve juste après une pause musicale.
Et c'est plus qu'une En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Merci d'être resté avec nous sur IDFM Radio. Vous écoutez Tous les droits. Mes invités du jour sont avocats en droit des sociétés, droit des marques et des entreprises en difficulté. Et nous continuons de répondre aux questions des auditeurs avec Maître Sébastien Thau. Une troisième question pour vous, Maître Sébastien Thau. Je souhaiterais avoir plus d'informations sur la liquidation judiciaire et la liquidation à l'amiable pour une entreprise. Pour la liquidation judiciaire, comment cela se passe et quelles sont les répercussions pour l'après ? Pour la liquidation à l'amiable, il faut que la société puisse payer tous les frais pour ne pas faire intervenir le tribunal et entrer en liquidation judiciaire ? Est-ce que c'est cela ? Pour couvrir les frais, est-ce que la vente du mobilier, du stock, de tout bien que possède la société rentre en compte ?
Je pense que notre auditeur s'est déjà un peu renseigné parce que il est sur de bonnes pistes de réflexion.
Sur Internet peut-être, donc bon, il a des débuts de réponse sur Internet qui ne sont donc pas suffisantes.
Non, je dirais que ça mérite quelques précisions, mais ça va le rassurer parce que il est sur la bonne voie. La liquidation judiciaire, c'est une partie du code de commerce, c'est quelque chose d'extrêmement technique et ça se différencie de la liquidation amiable par un point déterminant, c'est la notion de cessation d'état de cessation des paiements. Si nous avons une entreprise qui ne peut pas faire face à ses dettes avec la trésorerie disponible, eh bien cette entreprise se trouve en état de cessation des paiements et elle va rentrer dans le mécanisme dit des procédures collectives, qu'elle le veuille ou non. En réalité, le sort de l'entreprise à ce moment-là échappe à ses dirigeants, échappe à ses associés, et il va être remis entre les mains du tribunal qui va organiser la liquidation judiciaire, ce qui est très différent évidemment de la liquidation amiable, qui elle est entre les mains des associés, du dirigeant, du liquidateur qui est désigné par les associés, et qui va donc organiser la cession de l'ensemble des actifs pour tenter de régler l'ensemble des créanciers évidemment. Et s'il reste, des sommes à distribuer, évidemment, ça va revenir aux associés. Mais on est sur quelque chose de tout à fait organisé, anticipé. On met fin à l'activité, on organise la vente des actifs et on va permettre aux associés qui ont apporté de retrouver leur mise de départ, voire davantage. Il peut y avoir un boni de liquidation et les associés vont se retrouver dans une situation où l'entreprise disparaît, ils ont récupéré l'investissement de départ, voire davantage. Et il n'y a pas de suite à cette situation, pas de risque a priori pour ses associés. Seul cas éventuel auquel le liquidateur peut être exposé, c'est un recours d'un créancier qui aurait été oublié. Voilà, c'est le seul cas où on va judiciariser un peu le dossier. On règle l'ensemble des créanciers, sauf un, on l'oublie, parfois certains l'oublient un peu volontairement, et ce créancier va se manifester tout de même. Alors il va pouvoir, malgré la disparition de l'entreprise, engager une procédure, et malheureusement c'est le liquidateur qui est ennuyé dans ce cas de figure-là. Donc si notre auditeur envisage de liquider amiablement son entreprise, je lui dirais de faire très très attention, évidemment s'orienter vers un professionnel, de faire très attention à n'oublier personne sur la route, parce que ça peut se retourner contre lui. Il se trouve qu'au cabinet, on a déjà été amené à engager des procédures contre des personnes, d'anciens dirigeants nommés liquidateurs amiables, qui avaient oublié un créancier, et qui se sont retrouvés personnellement condamnés en raison de ce manquement. Donc attention à ce point de vue-là, c'est à ce point-là, puisque ça peut judiciariser le dossier. La liquidation judiciaire, pour en dire encore quelques mots, c'est quelque chose, encore une fois, qui échappe aux associés, qui va mettre le tribunal dans une situation où il désigne un certain nombre de personnes, on appelle ça les organes de la procédure, qui vont chapeauter la liquidation de l'entreprise. Donc les opérations sont cette fois-ci menées essentiellement par un mandataire judiciaire, qu'on appelait antérieurement liquidateur judiciaire, qui va réaliser, encore une fois, qui va vendre tout ce qu'il peut vendre. Parfois, il va vendre même le fonds de commerce lorsqu'il y a une poursuite d'activité envisageable. Il va licencier les salariés, hélas, sauf ceux qui peuvent éventuellement être transférés lorsqu'il y a une cession du fonds de commerce à un repreneur. Et il va faire le tour de l'ensemble des créanciers qui doivent se manifester. Là, cette fois-ci, il a pour lui la loi, puisque ce sont les créanciers qui doivent se manifester dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement de liquidation. Donc, il va être aidé par l'ensemble de ces éléments. Il y a un commissaire-priseur qui peut intervenir également, le juge-commissaire qui va surveiller l'ensemble de cette procédure, et au terme de l'ensemble de ce processus, nous arrivons à des situations qui peuvent être soit une liquidation pour insuffisance d'actifs, il n'y a pas assez d'actifs pour rembourser l'ensemble des créanciers, c'est malheureusement un cas de figure assez courant, c'est même le cas de figure le plus courant, et parfois il y a heureusement des liquidations judiciaires qui se terminent avec un peu d'actifs, et on va pouvoir non seulement régler l'ensemble des créanciers qui se sont manifestés, mais parfois même verser une somme aux anciens associés de la structure. Cas de figure encore un peu différent de celui de la liquidation amiable, le dirigeant se retrouve régulièrement convoqué par le juge-commissaire, régulièrement convoqué par le mandataire, et il va se retrouver sous l'examen de ce qu'il a fait antérieurement. Donc il se peut, dans quelques cas, qu'il soit poursuivi s'il y a des manquements avérés à ses obligations de gestion, si par son attitude, par ses décisions, il a précipité le sort de l'entreprise et qu'il a de ce fait créé un préjudice aux créanciers qui ne peuvent pas ensuite recouvrer les sommes qui étaient dues par l'entreprise. Donc il peut s'exposer à des poursuites judiciaires, les mandataires travaillent à ce moment-là avec le tribunal, avec un avocat, eux aussi, ils ont besoin d'un avocat, et ils vont engager le cas échéant des procédures en complément de passif, en extension de procédure à l'encontre de ces dirigeants qui auraient mal géré l'entreprise, très mal géré l'entreprise. Alors on parle de situations où il y a des manœuvres financières, voilà, qui posent difficulté, généralement.
Oui, qui existe, mais qui reste anecdotique.
Bon, tout à fait.
En tout cas, ce qu'on retient, c'est que, voilà, en qualité de dirigeant, on a des responsabilités, notamment sur la gestion de l'entreprise. Et comme on fait un peu de pédagogie aussi dans cette émission, expliquer que quand on veut se renseigner sur la santé, la situation juridique d'une société, on peut se rendre sur le site InfoGreffe, qui est le site de référence où on peut relever des extraits CABIS. Alors, c'est payant, mais c'est toujours nécessaire quand on veut vraiment avoir une donnée fiable au jour où on relève un extrait CABIS, donc ne pas hésiter à se rendre sur InfoGreffe aussi. Bon, je précise. J'essaie d'envoyer des messages dès que une question s'y prête. Merci beaucoup. Une dernière question pour vous, d'un auditeur ou d'une auditrice. Je souhaite créer une entreprise avec une amie pour l'organisation de fêtes d'anniversaire pour enfants. Nous ne savons pas quel statut juridique choisir. Pouvez-vous nous indiquer les critères de choix à prendre en compte pour sélectionner le statut juridique de notre entreprise ? Un vrai casse-tête pour les créateurs d'entreprises, le choix du statut juridique.
Tout à fait. Au cabinet, nous sommes régulièrement sollicités au titre de questions comme celle-ci. Alors, j'entends qu'elles seront au moins deux. Donc, il va falloir choisir une forme sociale de société. Alors, pas d'association dans ce genre de situation, sauf cas exceptionnel. Donc, nous avons généralement à proposer à ce type de situation la création d'une SARL, hein, ou la création d'une SAS. Ce sont les deux structures qui sont aujourd'hui privilégiées, avec des critères qui permettent à nos clients de s'orienter vers l'une ou vers l'autre. Alors, le premier critère, c'est souvent le régime social. On en parlera sûrement tout à l'heure avec ma consoeur Aurore Ventura, le régime social qui va s'imposer à notre dirigeant d'entreprise, puisque souvent les associés sont eux-mêmes dirigeants de l'entreprise. Alors en matière de SAS, de société par action simplifiée, eh bien ça va être le régime général de la sécurité sociale qui va s'appliquer à nos dirigeants d'entreprise. Pour les SARL, tout va dépendre du caractère majoritaire, minoritaire ou égalitaire, que je mets dans la même catégorie, du dirigeant. Hein, s'il est majoritaire, il tombe sous le régime des travailleurs non salariés. Sinon, à nouveau, régime des salariés. Donc, c'est un choix qu'il faut faire, en parler éventuellement avec son comptable sur ces questions très précises de cotisation. Il va y avoir des cotisations avec des niveaux différents selon la catégorie dans laquelle on se place. Mais c'est un critère qui va parfois guider nos interlocuteurs en matière de choix de société. Moi, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas qu'il s'arrête à ce point-là. Il y a d'autres éléments à prendre en considération pour choisir, notamment la flexibilité juridique offerte par telle ou telle structure. Les SAS sont connues pour leur flexibilité juridique. Elles offrent aux associés la possibilité faire du sur-mesure, en quelque sorte, au moment de la rédaction des statuts. C'est pour ça qu'on fait des statuts de SAS. C'est vraiment dommage de recourir à des statuts d'internet, puisque on va vous offrir quelque chose de type, alors que justement vous avez la possibilité de faire quelque chose de sur mesure avec des moyens de gouvernance différents, des modalités de vote qui peuvent être mises en place de manière très différenciée selon la situation des associés. Donc la flexibilité pousse, et moi j'insiste là-dessus, à choisir la SAS. Il y a également le recours au crédit, la situation de la liberté de cession des actions, la flexibilité, encore une fois, du fonctionnement de la SAS permet à la SAS, à mon sens, de se présenter dans une meilleure situation lorsqu'elle veut s'ouvrir à faire une levée de fonds, évidemment, s'ouvrir à des tiers et de cette manière-là développer l'activité. Donc la SARL va offrir un cadre sécurisé, bien fermé, qui encore une fois enferme un peu les associés dans une situation connue, mais peu ouverte vers le financement extérieur. La SAS, au contraire, est faite pour ça. Hein, c'est fait pour développer. Donc, si notre auditrice a dans l'idée que peut-être elle voudrait accueillir d'autres associés, développer sous forme de franchise, avec pourquoi pas d'autres salles à ouvrir pour accueillir des enfants, je l'orienterai vers la SAS, qui lui offrira beaucoup plus d'outils, et on peut même y ajouter un pacte d'associés, éventuellement, avec son associé, si elle veut garder des choses confidentielles par ailleurs. Dernier point peut-être, mais ça m'étonnerait que ça fasse l'objet d'un point décisif, les obligations comptables et en matière de commissariat aux comptes. On va avoir des différences de seuil entre les deux structures, et donc ça peut orienter éventuellement nos interlocuteurs.
Merci beaucoup d'avoir mis votre expertise au service de cette auditrice qui, je pense, vous consultera, parce que c'est très clair quand vous évoquez toutes ces situations. Et encore une fois, on comprend bien l'enjeu de connaître voilà l'activité, le projet de société, le nombre d'associés, toutes ces questions à soumettre à l'expertise d'un avocat. Merci Sébastien Thau. Nous marquons une nouvelle pause musicale avant de poursuivre notre émission avec mes invités, tous avocats au barreau du Val d'Oise. Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur IDFM98.fr. C'est tous les droits sur idfm.fr, aujourd'hui consacré aux droits des sociétés, aux droits des marques et aux droits des entreprises en difficulté, avec à mes côtés Maître Aurore Ventura, Maître Sébastien Thau et Maître Aurore Bonavia. Maître Aurore Ventura, là, j'ai deux Aurores aujourd'hui, donc Maître Aurore Ventura. Nous avons reçu des questions qui vont permettre d'aborder les délicieux, j'ai choisi le terme politiquement correct, les délicieux rapports entre les entrepreneurs, entreprises et les organismes sociaux, URSSAF et Sécurité sociale, aujourd'hui des indépendants. XRSI. Question. Première question. J'ai créé une URL qui a été radiée le 31 octobre 2021. En janvier 2024, j'ai reçu de l'URSSAF une demande de déclaration de revenus pour l'année 2020 à laquelle j'ai répondu. J'ai reçu un appel de cotisation d'environ 4000 euros pour l'année 2020. Après avoir consulté des informations sur Internet, j'ai constaté que la prescription pour les appels de cotisation est normalement de 3 ans. Pouvez-vous me confirmer s'il y a bien prescription sur ce montant et si oui, comment faire valoir mes droits ?
Alors, effectivement, je vais essayer d'être aussi claire que mon confrère. Donc, comme je le disais, déjà avant toute chose, tout ce qui est potentiellement contentieux entre les assurés sociaux et les organismes sociaux, c'est anciennement tribunal des affaires de sécurité sociale qui est compétent, qu'on appelle aujourd'hui le pôle social, donc qui dépend du tribunal judiciaire du lieu où vous résidez. Alors, pour répondre à cette question, oui, il y a une prescription. Cette prescription, elle est triennale, donc ça veut dire 3 ans. Et donc vous avez, je vais faire un petit peu de droit pur, donc c'est l'article L244-3 du Code de la Sécurité sociale qui dit que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Oui, alors cette phrase, il faut la lire plusieurs fois, parce qu'à un moment donné, on s'y perd. Mais attendez, c'est pas fini. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année suivante, l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Ouh là là. Donc on va s'arrêter au cas de notre auditrice et donc effectivement elle est en EURL, donc elle n'est pas du tout sur un travailleur indépendant parce que c'est une société unipersonnelle à responsabilité limitée, vous me confirmez mon très cher confrère, et donc dans ces cas-là, on est sur une prescription donc triennale qui commence à courir, comme on le dit, dans, à la fin de l'année, des cotisations qui sont dues. Donc si on prend son exemple de 2020, il va falloir donc compter à partir de la fin de l'année, donc on va commencer le 1er janvier 2021, c'est toute la logique possible, 1er janvier 2021, et on va compter année 2021, année 2022 et année 2023. Donc oui, les cotisations qui sont réclamées par l'URSSAF au titre des revenus de l'année 2020 sont prescrites. Alors on pourrait se dire, bah tiens, c'est quand même assez bizarre que l'URSSAF réclame des choses prescrites, bah ça arrive. Voilà, ça arrive. C'est des choses qui peuvent arriver pour la simple et bonne raison que je vous rappelle que on fonctionne sur un système déclaratif, que on est sur des contrôles a posteriori et non a priori, et pour cause, compte tenu des revenus, et que le temps que la machine se mette en place, se mette en route, il peut y avoir des cotisations qui sont réclamées et dont une partie qui peut être effectivement prescrite. Dans ce cas-là, c'est le cas. Donc alors j'aimerais juste apporter une petite précision. La prescription, elle est de 5 ans en cas de fraude. La fraude, c'est par exemple une déclaration frauduleuse, c'est-à-dire on transmet de faux éléments pour voilà amoindrir ses cotisations, voire même ne pas en payer, et donc on est sur une prescription de 5 ans. D'accord. Une fois ce constat fait, donc de la prescription triennale, qu'est-ce qu'il peut faire ou qu'est-ce que notre auditrice peut faire ? Alors, ce qui se passe, c'est que elle est au stade où l'URSSAF lui dit, ben voilà, on a fait un calcul, vous nous devez tant. Donc c'est ce qu'on appelle un état des dettes. Donc c'est juste un document qui vous est transmis par l'URSSAF. Alors, elle, que peut-elle faire ? Elle peut, dans un premier temps, dire, attendez, je comprends pas, voilà, citer l'article 244-3, dire que selon mon calcul, les cotisations que vous me réclamez sont prescrites, donc je vous remercie, en gros, de revoir votre position. Soit l'URSSAF répond de manière assez diligente et rapide, mon silence en dit long.
Trois petits points, silence.
Voilà. Soit l'URSSAF met un petit peu plus de temps. On est plus dans le deuxième cas. Donc l'URSSAF met du temps, ne répond pas, donc vous pouvez relancer. Je déconseille fortement les appels. Pourquoi ? Je vais m'expliquer. Un, parce que vous tombez sur un salarié de l'URSSAF qui va vous dire quelque chose. Et puis ensuite, vous allez rappeler l'autre salarié de l'URSSAF va vous dire autre chose. Mais c'est surtout qu'il n'y a aucune traçabilité. Aucune. Nombre de justiciables qui arrivent en disant « mais il m'a dit ci, il m'a dit ça », ça vaut rien du tout. Donc, écrire. Et puis, pour la petite histoire, l'URSSAF dit généralement autre chose à l'oral et à l'écrit, on a une autre position. Donc, vous écrivez, bien évidemment, recommandé, il y a toujours une traçabilité, vous gardez une copie également, et vous faites état. Donc, on espère que l'URSSAF réponde dans un délai raisonnable, et que, tout simplement, elle y réponde par une mise en demeure. C'est-à-dire qu'elle considère que ses cotisations sont dues, qu'elles ne sont pas prescrites, et elle délivre une mise en demeure. Une mise en demeure, qu'est-ce que c'est ? C'est un document dans lequel on va retrouver un certain nombre d'obligations, et j'y reviendrai, qui va indiquer au cotisant qu'il doit telle somme au titre de telle cotisation, de telle période, et qu'il a un mois pour les régler. Si il ne les règle pas, une procédure s'ensuit, qui va être notamment ce qu'on appelle la contrainte. Si je reprends donc l'exemple de notre auditrice, si au stade de la mise en demeure, donc elle se rend compte tout simplement que finalement l'URSSAF poursuit, elle peut contester, mais on doit contester préalablement par la voie ce qu'on appelle gracieuse. Donc c'est la saisine de l'ACRA, commission de recours amiable, qui est une commission indépendante, qui est censée réexaminer le dossier de l'URSSAF et indiquer si oui ou non la position de l'URSSAF est bonne. Dans le cas où elle confirme effectivement, donc elle rend une décision, le justiciable, le cotisant, a 2 mois pour saisir le pôle social. S'il ne le fait pas, malheureusement, il est obligé, contraint d'attendre l'opposition, où là, une autre voie va s'ouvrir. Je voulais juste venir sur les mises en demeure. La mise en demeure, comme je l'ai dit, donc c'est un document qui est délivré donc par l'organisme URSSAF, et elle répond obligatoirement à des mentions qui vont être donc le nom et adresse URSSAF de l'URSSAF de qui émet la mise en demeure, d'accord ? Parce qu'il y a l'URSSAF national, mais il y a différents organismes en fonction, enfin différentes annexes, on va les appeler comme ça. L'identité du destinataire, parce qu'il faut bien une adresse à la bonne personne, le montant des cotisations et contributions dues, également les périodes. On peut pas, ça peut paraître un peu, assez détaillé, mais ça a son importance, parce que quand vous êtes entrepreneur et que ça fait, des années que vous travaillez, je pense qu'il est quand même assez judicieux de bien préciser les sommes qui sont dues et surtout à quel titre, et le délai de règlement. Donc vous avez 1 mois généralement pour régler cette dette. Et puis vous avez toutes les conséquences qui sont précisées en cas de non-paiement. Si ces éléments ne sont pas indiqués, la sanction peut être la nullité de la mise en demeure. Ce qui n'est pas rien. Alors bon, il y a peut-être eu quelques loupés avant, dans les débuts. Là, ça devient de plus en plus rare. Mais il y a eu à un moment donné une très grosse jurisprudence sur la manière dont vont être rédigées les mises en demeure, sur les obligations qui devaient apparaître dans les mises en demeure pour éclairer tout simplement le cotisant et pour pouvoir contester. Donc voilà. J'espère avoir répondu à la question de notre très chère auditrice.
Très clair. Donc, on vérifie toutes les notifications qu'on reçoit de l'URSSAF, le fond, la forme. Il existe des délais de contestation. Et encore une fois, j'insiste toujours là-dessus, mais il y a des délais à respecter. Oui. Et donc, il faut être très réactif. Passer ces délais, les actions peuvent être prescrites, on peut être forclos. D'où l'importance, toujours, d'être très attentif aux notifications, aux délais de recours et de se rapprocher d'un avocat compétent en la matière pour s'assurer de ses droits. Question numéro 2. Je suis travailleur indépendant depuis 2010. J'ai reçu de l'URSSAF un état de dette pour des cotisations datant d'il y a 5 ans. Donc l'état de dette dont vous parliez dans votre précédente réponse. Je ne comprends pas pourquoi ces sommes sont appelées maintenant. Dois-je attendre une mise en demeure et entamer ensuite un contentieux avec l'organisme ?
Alors, je vais pas revenir donc sur la prescription. Hein. Donc effectivement, on voit poindre un petit peu la question de la prescription triennale, ou sauf si encore, comme je l'ai dit, il y a fraude, la prescription quinquennale. On va rester donc dans le cas où on est sur une prescription triennale. Donc l'auditeur reçoit un état de dette, fait la lecture de cet état de dette et s'aperçoit qu'il y a des sommes qui sont demandées concernent des périodes assez lointaines. Alors il faut savoir quand même que le droit à la sécurité sociale répond quand même à des règles assez importantes, à certaines donc sont très encadrées, et donc normalement on ne peut pas saisir soit de manière gracieuse donc la CRA, donc la commission de recours amiable, ou alors le pôle social sans notification de l'URSSAF. Donc ça veut dire que sans décision, on va l'appeler comme ça, sans décision de l'URSSAF, vous ne pouvez pas saisir. Sinon votre saisine, d'accord, que ça soit de la CRA ou du pôle social, est irrecevable, puisque vous n'avez pas cette condition préalable qui est la décision. Alors vous avez il y a la Cour de cassation qui s'est un peu exprimée sur qui s'est exprimée sur ce point-là et qui considère que à partir du moment où on est quand même sur, on va dire, un comportement assez blâmable de l'URSSAF qui par un silence assez important impose à au justiciable ou en tout cas aux cotisants de ne pas savoir s'il faut régler ou pas, la Cour de cassation a considéré que dans ces cas-là, le cotisant peut très bien être acteur de la situation. Bah, mettre en demeure, tiens, pourquoi pas, mettre en demeure l'URSSAF en disant « Vous m'avez adressé un état de dette. Cet état de dette implique que je serai redevable des cotisations au titre des années tant, soulever les différents points et demander à avoir une réponse. » Et s'il n'y a pas de réponse, on considère que c'est un refus, parce que je rappelle quand même que dans le droit de la sécurité sociale, le silence vaut refus, donc on considère que c'est un refus, et dans ces cas-là, on retombe dans une procédure classique, où là, on saisit donc le pôle social, pardon, la CRA, excusez-moi, pour ensuite le pôle social, pour pouvoir contester les sommes qui sont dues.
Merci pour toutes ces précisions sur ce contentieux qui est très technique. Une petite pause musicale avant de vous retrouver, Maître Aurore Ventura, pour la suite des questions des auditeurs qui sollicitent votre expertise.
J'ai commencé par Instagram, c'était cool, j'avais un très bon programme. Petit concert dans des bars vides, ma babysitter la première à me suivre. Ensuite tout a changé très vite, même mes amis ils ont changé. Tout est devenu plus simple, enfin surtout pour entrer dans les soirées. On connaît tous la pression, tu te sens comme la reine du monde, mais c'est qu'une impression. Les gens t'aiment pas pour de vrai, tout le monde te trouve génial alors que t'as rien fait. Tout est devenu flou, un peu trop fou. Ça se trouve ça va pas durer, ou peut-être seulement quelques mois. Voilà, je commence déjà à angoisser, crise après crise, j'arrive plus à être moi. On connaît tous la pression, tu te sens un peu seul au monde, c'est pas qu'une impression. Les gens t'aiment pas pour de vrai, tout le monde te trouve génial alors que t'as rien fait. Tout est devenu flou, peur de perdre la tête en enfer, la suite on verra. Perdre la tête en enfer, j'ai peur de perdre tous mes repères. Tout est devenu flou.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Vous écoutez Tous les droits. Mes invités du jour sont avocats en droit des sociétés, en droit des marques et en droit des entreprises en difficulté. Et nous poursuivons cette émission avec Maître Aurore Ventura, notre spécialiste du contentieux de la sécurité sociale. Une nouvelle question pour vous. Jusqu'à maintenant, j'étais salarié et donc affilié au régime général. Je vais créer mon entreprise en janvier 2025. Comment ça se passe au niveau de la Sécu? Je vais passer au régime social des indépendants? Comment faire?
Alors, Sonia, c'est vrai que cette question, elle m'a amené à me dire qu'il y a quand même deux situations, puisque il y a, je ne sais pas si cette personne arrête son activité salariée et devient entièrement entrepreneur, ou alors elle a ce qu'on appelle la polyactivité, à savoir salarié et entrepreneur. Donc du coup, je me suis dit, allez, on va répondre aux deux, et puis comme ça, au moins, c'est
voilà. C'est ça d'avoir des avocats experts. Ah, voilà,
c'est ça,
voilà.
C'est ça. Voilà. J'espère que mes clients m'entendent bien, avocats experts. Juste pour la petite histoire. Donc effectivement, avant, nous étions donc sous le régime du RSI, donc RSI qui n'existe plus depuis 2019, fin 2019, début 2020. Et aujourd'hui, nous sommes rattachés notamment à la sécurité sociale pour tout ce qui est indemnité journalière, etc. Et cotisation, mais c'est l'URSSAF, cotisation et contribution. Donc dans le cas où il y a une cessation de l'activité salariée, donc à compter en fait du 1er janvier 2019, toute personne, donc c'est ce que je disais, donc qui crée, on reprend une activité indépendante, qu'il s'agisse d'un micro-entrepreneur, d'un artisan, d'un commerçant ou d'une profession libérale, sera automatiquement affilié et pris en charge par l'assurance maladie pour sa couverture santé obligatoire. Ce travailleur indépendant sera ainsi donc rattaché à la caisse primaire d'assurance maladie de son lieu de résidence ou de sa caisse générale de sécurité sociale. Ce changement ne modifie cependant pas la couverture santé des travailleurs indépendants. Ça veut dire sur les modalités de remboursement des soins, sur les indemnités journalières qui restent inchangées et sans incidence sur le taux de cotisation. Il faut quand même préciser que même si les indépendants sont rattachés à la sécurité sociale, on a quand même des particularités quant au taux de cotisation, quant au mode de remboursement, etc. On n'est pas confondu totalement avec le régime général de la sécurité sociale. En cas de polyactivité, donc la polyactivité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est lorsque l'on conserve son poste de salarié et qu'on décide, ça se fait très fréquemment pour tout simplement avoir des ressources complémentaires, et donc on décide d'être entrepreneur. Donc là, on est affilié en fait aux deux régimes. D'accord. Donc c'est-à-dire en matière de sécurité sociale et de cotisation. Donc en tant que salarié, vous voyez bien sur votre fiche de paye les cotisations qui sont prélevées par votre employeur et qui ensuite vont être versées. Donc ça va être des cotisations qui concernent pour les maladies, la retraite, allocation familiale. En tant que entrepreneur, donc du coup, vous avez aussi le propre régime qui est affilié justement aux indépendants. Et qui va gérer la protection sociale des travailleurs indépendants, et qui signifie que vous allez devoir donc payer des cotisations spécifiques en fonction de votre activité entrepreneur. Donc soit c'est auto-entrepreneur, soit URL, soit SARL. Donc il y a bien des spécificités également. Pour ce qui est des cotisations sociales, donc ça je l'ai déjà dit, donc en tant que salarié, c'est votre employeur qui s'en charge par le versement aux différents organismes, et en tant qu'entrepreneur, c'est vous qui allez devoir les verser, et elles vont être calculées en fonction de votre chiffre d'affaires. D'accord. Donc le chiffre d'affaires ou le bénéfice en fonction bien évidemment de votre statut juridique de votre société. D'accord. Et encore une fois, c'est notre très cher URSSAF qui récupère ces cotisations. Pour finir, droits et prestations. Donc encore une fois, si étant à la fois donc salarié et entrepreneur, vous bénéficiez des droits liés au régime de votre activité salariée, mais aussi de votre activité indépendante si vous en démarrez une. Et donc depuis 2016, le petit plus, c'est que les indépendants et les activités avec ou sans activité salariée sont redevables de cotisations indemnités journalières pour pouvoir percevoir des indemnités quand ils sont en situation en arrêt de travail ou autre, ce qui permet quand même d'avoir une situation un petit peu plus confortable.
Merci pour ces précisions. Une dernière question pour vous. J'ai une dette URSSAF. Puis-je la négocier ou obtenir des délais?
Ah, question très intéressante. Alors, quand j'ai commencé à plaider devant le anciennement, donc le tribunal des affaires de sécurité sociale, c'était assez flagrant de voir ces cotisants qui demandaient de négocier la dette. Sauf qu'il faut savoir quand même que l'URSSAF, ce sont des fonds publics, c'est l'argent de l'État. Donc quand c'est dû, c'est dû. Et on peut pas réduire, il n'y a pas de rabais, il n'y a pas de moins 20% si on paye dans le mois qui suit, etc. C'est pas possible. C'est une somme qui est due. Et puis ça sert aussi à financer, notre pays, en tout cas pour partie. Alors par contre, vous pouvez obtenir des délais. Ça, c'est autre chose. Donc vous pourrez obtenir des délais. Donc, quand je dis faut négocier, pas négocier, s'il y a une erreur, bien évidemment, dans le montant, on retombe dans le processus classique où vous contestez. Mais négocier, ça c'est pas possible. Et donc, pour obtenir des délais, vous pouvez tout à fait le demander, et l'URSSAF va étudier votre situation. Donc, c'est-à-dire, va voir si vous êtes un cotisant de bonne foi, quelle est votre situation, si effectivement vous êtes dans une situation compliquée qui nécessite que vous puissiez régler cette dette en plusieurs fois, il y a tout des critères qui s'imposent et qui vont permettre de prendre une décision. Ça, c'est la première chose. Par contre, attention, les majorations de retard, elles continuent de courir. Elles ne sont pas suspendues. Il faut savoir que c'est soit vous réglez la dette à la date imposée par l'URSSAF, à partir du moment où vous sollicitez des délais, eh ben c'est comme dans tout. Alors là, on ne parle pas d'intérêt, mais la majoration, elle continue de courir. Vous pourrez demander une remise gracieuse, donc partielle ou totale, de cette majoration à la seule et unique condition que vous ayez réglé la dette principale dans son intégralité. Et donc, dans un second temps, vous pourrez, auprès de l'URSSAF, demander cette remise gracieuse, partielle ou totale. Cette remise, elle répond aux mêmes conditions que pour les délais, la bonne foi, la situation économique du cotisant, sa composition, etc. Dans le cas où l'URSSAF refuserait cette remise, vous avez la possibilité de saisir le tribunal.
D'accord. Donc, un dialogue peut tout de même s'instaurer sur les points que vous avez rappelés.
Voilà. Alors, pas à l'audience, je vous le dis. Donc, pas à l'audience. Généralement, l'URSSAF n'est pas très disposé de discuter de délai à l'audience. Mais, si vous êtes avant contentieux, vous pouvez toujours effectivement le faire. Donc, par le biais, justement, d'appel auprès de l'URSSAF. Parce qu'il faut savoir que l'URSSAF, quand même, comme n'importe quel organisme, est censé avoir un détail de vos appels, de ce qui s'est passé, de ce qui a été mis en place, etc. Mais encore une fois, j'invite toujours à une traçabilité écrite. Et si vous êtes allé dans le temps du contentieux, parce qu'au départ, vous n'étiez pas d'accord, mais que finalement, vous avez trouvé... Alors quand je dis un terrain d'entente, c'est-à-dire que soit des cotisations étaient dues mais finalement ne le sont pas ou autre, là vous pouvez dans un deuxième temps demander des remises.
Et vous intervenez pour assister certains clients.
Et on peut intervenir. Alors notre marge de manœuvre elle est très très minime. Il faut être très très honnête. À partir du moment où vous avez reconnu la dette, qu'on n'est plus dans la phase de contestation, mais qu'on est dans une reconnaissance du montant de la dette, tout ce qui concerne les délais, etc. Notre intervention elle peut avoir un impact, mais c'est pas forcément
ça ne va pas changer la donne.
Il faut avoir quand même une situation qui le permet. Quelqu'un qui est régulièrement en impayé auprès de l'organisme qui l'URSSAF, il y a très peu de chances qu'il obtienne des délais.
Merci pour ces précisions, maître Aurore Ventura. Nous allons terminer cette émission avec l'autre Aurore, maître Aurore Bonavia. Nous avons reçu des questions pour vous, maître Bonavia, et notamment cette première question d'un auditeur qui a créé son entreprise il y a 3 ans sans déposer de marque. J'ai juste vérifié, nous dit cet auditeur, auprès de l'INPI que le nom choisi n'avait pas été préalablement déposé et je me suis aperçu après que le nom était identique à celui d'un créateur dans le même secteur que moi, il est précisé le loisir créatif, mais qui a débuté avant son activité. Donc cet auditeur nous dit « J'ai développé ma popularité sur Internet, j'ai ouvert un magasin. Cependant, mes clients confondent nos photos et nos liens. Je souhaite déposer ma marque maintenant pour être la seule à exploiter. Est-ce possible ?»
Alors, en droit, les auditeurs l'auront compris, c'est jamais oui ou non. C'est toujours oui, mais ou non.
Réponse de Normand, ça.
Mais je vais y venir. Le premier élément, c'est que elle a fait donc une recherche auprès de l'INPI il y a 3 ans. Il faudrait donc s'interroger comment cela se fait-il qu'elle n'a pas découvert le nom de son concurrent. Et parce que il n'y a pas que l'INPI pour réaliser les recherches, puisqu'il faut savoir que quand on souhaite déposer une marque, toute personne qui dispose d'un autre, ce qu'on appelle signe distinctif, peut s'y opposer à l'enregistrement de la marque. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une marque antérieure pour s'opposer à une nouvelle marque. Il peut y avoir, par exemple, une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne, un nom de domaine, des droits d'auteur aussi. Voilà, tout signe distinctif. Donc déjà, il faudrait un petit peu en savoir plus sur quel est le nom qui est utilisé par ce concurrent, on va dire dans quelle catégorie on pourrait le classer, pour voir s'il y a un intérêt. Deuxièmement, elle le souligne, le concurrent a débuté son activité avant elle, donc on va dire, si on part du principe que c'est une marque ou une dénomination sociale ou un nom commercial, effectivement, elle ne pourra pas déposer sa marque aujourd'hui. Même si elle a développé sa notoriété, sa petite popularité, voilà, il y a quand même des critères, donc il faudra en savoir un petit peu plus pour voir ce qu'il est possible de faire. Après, ça veut dire que ce n'est pas forcément impossible, ça s'analyse, parce que tout dépend aussi le nom choisi, finalement, par elle, et donc qui est le même que son concurrent, puisque tout ne peut pas être protégé. Et il faut que la marque soit ce qu'on appelle distinctive, c'est-à-dire qu'elle doit avoir un caractère distinctif, donc pour expliciter, c'est qu'elle ne doit pas utiliser des termes génériques ou descriptifs pour les produits ou les services qu'elle vise. Donc ça s'analyse, parce que peut-être que finalement le nom choisi ne peut pas être protégé à titre de marque. Donc voilà, voilà un petit peu des pistes de réflexion, mais il faudra effectivement savoir un peu plus pour affiner la réponse.
Donc il suffit pas de taper INPI, le nom de sa marque, et se dire ah c'est bon, c'est plus complexe que ça.
C'est plus complexe que ça, d'autant que le moteur de recherche de l'INPI, alors il s'est amélioré, mais à l'époque il n'y avait que des résultats, on va dire, à l'identique, et donc l'INPI, vous ne ressortez pas les résultats avec des lettres en plus, enfin des homonymes, etc. Donc il faut une recherche plus approfondie.
Merci Maître Aurore Bonavia. Une nouvelle et dernière pause musicale avant de répondre aux dernières questions des auditeurs dans les droits de l'API, droits des marques, droits d'auteur. À tout de suite.
If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. If you are serious, don't play with my heart. It makes me furious. But if you want me to love you, then a baby I will. Girl, you know I will. Tell it like it is. Don't be ashamed. Let your conscience be your guide. But I know deep down inside of me, I believe you love me. Forget your foolish pride. Life is too short to have sorrow. You may be here today, gone tomorrow. You might as well get what you want. So go on and live. Baby, go on and live. Tell it like it is. I'm nothing to play with. Go and find yourself a toy. But I'm telling like it is. My time is too expensive, and I'm not.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Vous écoutez Tous les droits. Mes invités du jour sont avocats en droit des sociétés, en droit des marques, en droit des entreprises en difficulté. Et nous terminons cette émission avec Maître Aurore Bonavia. Je vous pose donc une nouvelle question reçue d'une auditrice qui nous indique « Je suis créatrice de vêtements pour enfants et je souhaite ouvrir une boutique de vente en ligne. Quelle démarche dois-je entreprendre pour protéger mes créations? Le droit d'auteur suffit-il ?»
Alors, effectivement, vos créations peuvent être protégées au titre du droit d'auteur. La particularité du droit d'auteur, c'est que le droit naît du simple fait de la création. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépôt, contrairement à une marque ou un dessin et modèle. Il faut juste rapporter la preuve de deux conditions. Un, prouver que vous en êtes l'auteur. Et deux, que vos créations soient originales. Comment on fait pour prouver que vous en êtes l'auteur? Ça va être par des publications sur les réseaux sociaux, des documents en interne. Ça va être, il y a plein d'éléments de preuve qui permettent de dater vos créations. Ensuite, sur la question de l'originalité de vos créations, il n'y a pas de définition légale de qu'est-ce qu'une création originale, ça va être la jurisprudence, les juges qui vont au cas par cas, en cas de contentieux, déterminer qu'est-ce qui est original ou pas. Il faut juste retenir que l'auteur doit justifier de choix créatifs et libres et ne pas avoir été contraint par de la technique pour réaliser là, en l'occurrence, des vêtements. Ensuite, à cela peut s'ajouter la protection par les dessins et modèles. Les dessins et modèles, c'est un dépôt, contrairement au droit d'auteur, et on va venir protéger l'aspect esthétique de la création uniquement. Donc, vous pouvez procéder à ces dépôts, et il faut juste avoir en tête que la durée de validité d'un dessin et modèle est de 25 ans au maximum. Voilà, et après, ne pas oublier effectivement la marque sous laquelle vous allez vendre vos vêtements.
D'accord. Ah oui, donc le droit d'auteur, enfin,
va s'accumuler.
D'accord. Ça s'accumule.
Avec le droit des dessins et modèles.
D'accord. Ok. Bon, alors il y a quand même beaucoup d'informations dans cette réponse, et j'invite notre auditrice alors à se rapprocher de votre cabinet, qui est un des seuls, même peut-être du barreau, à être spécialisé en pays et en droit des marques.
Oui, certainement.
Maître Aurore Bonavia, nous poursuivons avec cette nouvelle question d'un auditeur qui a créé avec trois partenaires, qui, je comprends, étaient tous à l'époque auto-entrepreneurs, un événement festif dont le concept est unique. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'aurais bien aimé qu'il le précise. Nous ne souhaitons plus travailler ensemble. Et je suis désormais prestataire de services, toujours en auto-entrepreneur. J'aimerais savoir si je peux déposer le nom de l'événement et protéger son concept.
Alors, déjà, je vais peut-être en briser certains rêves de certains. Les concepts, comme les idées, ne sont pas protégeables. On dit que les idées sont de libre parcours. Ça va être la matérialisation de ce concept et de cette idée qui peuvent être protégées. Là, on voit qu'il y a un potentiel conflit. Enfin, en tout cas, il y a une séparation de partenaires. Donc, je dirais sécurité. Il vaut mieux quand même demander l'autorisation de ces partenaires-là de déposer en son nom uniquement la marque. Sauf à ce que elle arrive à prouver que c'est elle seule ou lui seul, l'auditeur, qui en est à l'initiative et qui a créé ce concept pour en déposer la marque.
Donc les idées, comment vous avez dit les idées
alors,
sont
alors c'est un adage, voilà, c'est un proverbe de Henri Dubois, donc les idées sont de libre parcours.
Les idées sont de libre parcours. Ça se plaide bien, ça faut absolument le retenir pour le plaider de temps en temps quand ça s'y prête. Oui, donc cette auditrice aurait tout intérêt à reprendre contact avec ses anciens partenaires quand même pour avoir une discussion à ce sujet.
C'est mieux parce que sinon ils pourront revendiquer une co-titularité derrière, avoir un conflit, etc. Donc il vaut mieux sécuriser en amont pour voir ce qui peut être fait.
D'accord. Donc toujours garder de bons rapports avec ses anciens partenaires ou associés. Voilà. Ça peut éviter aussi des fois d'avoir à régler ces épineuses questions en pays. Du coup, là, on peut le dire pays.
Oui.
Je peux. D'accord.
Oui.
Très bien. Dernière question. Je suis artisan et je souhaite créer un site internet. Quelles précautions dois-je prendre et quelles sont les exigences légales en matière de site internet?
Alors, tout d'abord, quand l'artisan va choisir son nom de domaine, au même titre qu'une marque, il va devoir vérifier si ce nom de domaine est disponible, si ce nom est disponible, et vérifier s'il n'y a pas d'autres noms similaires. Donc, la première étape, c'est de vérifier quand il va choisir le nom pour acheter son nom de domaine. Ensuite, il va peut-être faire appel à un prestataire pour la création de son site internet, donc bien lire les conditions et le contrat de ce prestataire-là pour s'assurer que il va détenir les droits de propriété intellectuelle attachés à son site internet, et de voir un petit peu les conditions effectivement de la relation contractuelle. Et ensuite, sur son site, il devra avoir un certain nombre d'informations juridiques. Tout d'abord, les mentions légales qui permettent d'identifier l'éditeur du site, donc en l'occurrence l'artisan. Ce sont des mentions obligatoires et les sanctions peuvent être élevées. Ensuite, comme tout site internet, il collecte de la donnée personnelle, donc il va devoir rédiger et insérer une politique de confidentialité des données. Il va devoir aussi afficher dès la première page de son site, dès le premier point d'entrée, le bandeau cookie, Voilà, je vais pas détailler les cookies, mais bon, si besoin plus de précision, n'hésitez pas à adresser vos questions. Et les mentions aussi d'informations sous les formulaires de collecte. Qu'est-ce qu'un formulaire de collecte ? On a tous sur un site un bouton contact où on peut envoyer un message. C'est un formulaire de collecte. Il faut avoir une mention sur la notion de données à caractère personnel qui va renvoyer à la politique de données. Et enfin, si l'artisan décide de vendre directement ses produits ou ses services sur son site internet, il devra se doter des conditions générales de vente et suivre un formalisme très particulier avec les règles du e-commerce notamment. Donc voilà un petit peu les éléments. Et après, un document qui peut être utile mais qui n'est pas forcément obligatoire, c'est ce qu'on appelle les conditions générales d'utilisation. Moi, je les préconise selon le type de plateforme et de site. Voilà, ça va permettre en fait d'établir des règles d'utilisation de la solution, du site web auprès des utilisateurs.
D'accord. Et parce que en fait, souvent les artisans aussi font ça un peu tout seuls quand ils prennent pas de prestataires. Donc c'est vrai qu'il faut être vigilant à un certain nombre de choses. Et l'IA peut nous faire des sites internet maintenant ou pas ? Est-ce qu'elle va pouvoir faire ça, l'IA, pour nous ?
Alors l'IA peut accompagner, je pense. En tout cas, aujourd'hui, il y a plein d'outils qui aident à cela ou en tout cas qui vont vous aider à comment créer un site, comment utiliser telle solution si vous n'êtes pas très adroit avec la solution proposée sur le marché. Donc oui, ils peuvent également aussi vous aider et vous accompagner là-dessus.
Très bien. Merci pour toutes ces précisions, Maître Bonavia. Notre émission s'achève. Je remercie mes invités du jour qui m'ont honoré de leur présence, de leur sourire, de leur bonne humeur. Vous reviendrez nous voir, Maître Sébastien Thau ?
Bien sûr.
Ça fait déjà deux fois, on dit jamais 203. Exactement. Donc je compte sur vous à une prochaine émission. Maître Ventura ?
Avec plaisir, je reviendrai.
Donc on peut vous croiser devant le pôle social des tribunaux de France et de Navarre, c'est ça ?
Oui, pour l'instant ça reste de France.
Mais ça reste de France, très bien.
Pouvez me croiser, oui, exactement.
Bon, merci pour votre expertise et votre fraîcheur en contentieux de la sécurité sociale, qui est un contentieux technique et parfois aride, que vous avez rendu très humain. Je vous en remercie.
Vous m'envoyez ravie.
Et Maître Aurore Bonavia, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous exercez dans un domaine effectivement très technique. J'ai pu adresser certains clients à votre cabinet parce que c'est un contentieux où, très franchement, je pense que personne ne se risque, sauf à avoir fait des études et à être spécialisé, en tout cas à exercer dans ce domaine-là à titre d'activité dominante. Et je rappelle que vos actualités en qualité de formatrice sur le thème de l'IA sont accessibles sur vos réseaux sociaux.
Tout à fait, merci.
Merci à tous d'avoir été les invités de Tous les droits, une émission par vous et pour vous. Je recevrai le premier lundi de chaque mois des avocats du barreau du Val d'Oise qui répondront à vos questions, parce que nul n'est censé ignorer la loi et que vous devez connaître tous vos droits. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Francky pour la technique. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Son podcast sera disponible sur le site de la radio idfm98.fr. À très vite pour un nouveau numéro de Tous les droits sur IDFM Radio 98 FM. Belle journée et bonne semaine.